Sans détour avec François Beauregard.
Bonjour tout le monde, ici François Beauregard, Sans détour, 17 juin, la dernière émission de la saison. On va en profiter pour parler de choses passionnantes qui vont nous tenir occupés et en même temps nous mettre en forme au courant de l'été, et aussi de sujets qui sont plus prenants à ce sens. Nous aurons le plaisir d'accueillir Mme Souraya Pirali, qui est agente de défense collective des droits pour le dossier sécurité alimentaire à Execo. La sécurité alimentaire, ça semble tellement essentiel qu'on n'y pense pas, mais oui, c'est un problème pour plusieurs. Isabelle Ducharme, présidente du conseil d'administration chez Kérol. Encore une fois, c'est le moment de jeter un coup d'œil à toutes les activités plein air accessibles au Québec. Kérol est incontournable pour avoir toute l'information à ce sujet. On fera la revue de presse avec Élisane Pellerin. Mais pour commencer, nous avons le plaisir d'accueillir Kevin Breton de Radio-Canada et on parle Paralympique, le grand événement de l'été. Bonjour Kevin, comment allez-vous?
Salut François, ça va bien toi?
Ça va bien, on va se tutoyer, je pense bien, parce qu'on se connaît de longue date et on n'est pas dans le même pool de hockey, mais tout juste.
Ouais.
Tu as encore une fois le plaisir et aussi la responsabilité d'être chef d'antenne cet été pour un autre cycle paralympique et les paralympiques à Paris du 28 août au 8 septembre. Ça va être les plus grands jeux de ce genre-là. On est dans une, mais je pense maintenant on est rendu à un autre niveau.
Oui, je pense que c'est en tout cas l'ambition que le comité organisateur a, mais tu sais, c'est un petit peu le slogan qu'on entend aussi à chaque deux ans et à chaque quatre ans. On veut toujours faire mieux que les éditions précédentes, mais ça reste que oui, les Jeux paralympiques, on perçoit, en tout cas, on remarque que ça se sert souvent de vecteur en général pour un cadre qui est extra-sportif, là, c'est-à-dire pour l'inclusion sociale des personnes handicapées. Si on veut qu'il y ait un leg, moi, je repense toujours à l'exemple là, de Londres en 2012, qui avait vraiment été un point marquant pour la mise en accessibilité du réseau de métro là-bas. Il y a certaines stations qui étaient vraiment compliquées à rendre accessibles, mais elles étaient près du village paralympique. Donc, on avait mis des gros sous,
oui,
des gros pounds, des gros...
Et Paris aussi a emboîté le pas cette année à ce sujet.
Oui, donc à Paris, c'est trop cher le métro, puis c'est comme trop compliqué. Donc, il y a eu des investissements ailleurs, mais je pense qu'au départ, quand il avait mis la ville en candidature, en nomination, il avait un petit peu levé ça comme argument en disant que ça pourrait servir à ça. Mais très rapidement, ils se sont rendus compte que ce serait pas possible de rendre, par exemple, le métro de Paris, qui est plus que 100 mètres accessible. Mais je pense aussi, mettons, aux Jeux de Pékin, les premiers en 2008, ça a comme vraiment été... À ce moment-là, les athlètes handicapés, c'était pas Légion là-bas. Puis là, aujourd'hui, aux Paralympiques, que ce soit l'hiver ou l'été, la Chine est excellente dans tous les sports, c'est même vrai. Aux parahockey. C'est pour ça que ça sert un peu de tremplin en général.
Oui, puis tout à fait. Ici, dans le cadre de l'émission, dans la revue de presse, chaque semaine, on voit l'avalanche de nouvelles provenant de France au sujet de l'accessibilité. En tout cas, si le métro n'est pas encore à niveau là-bas, il y a certainement beaucoup de... Dans le discours public, en tout cas, il y a certainement beaucoup plus de place faite aux personnes en situation de handicap et à l'accessibilité en général. Qui doit-on surveiller? Il y a 56 heures tout de même de programmation paralympique sur ICI2 TV. C'est pas rien. Et est-ce qu'il y a des épreuves reines qu'il faut surveiller? Est-ce qu'il y a des dates qu'on doit mettre à notre agenda, des athlètes incontournables?
C'est quand même le fun parce que moi, je l'avais fait en 2021 à Tokyo puis j'étais descripteur pour l'athlétisme. Fait que je faisais la description piste de l'ose. Oui, je surveillais passer ailleurs aussi, mais j'étais comme trop occupé avec la piste et la pelouse pour vraiment pouvoir voir ce qui se faisait ailleurs. Là, comme chef d'antenne, tu sais, avoir une vision plus globale de ce qui se fait partout, tu sais, dans l'eau, sur la piste, dans les terrains, dans les gymnases. Fait que la liste est longue. Moi, je sais que je vais surveiller, tu sais, tous les sports d'équipe, le goalball,
oui,
le rugby en fauteuil roulant, le basket en fauteuil roulant. C'est aussi un sport où il y a des bonnes chances de médailles. Tu sais,
ben, le goalball, entre autres, le Canada est qualifié dans le goalball féminin.
C'est les femmes, effectivement. Au rugby, c'est un mix, donc c'est hommes et femmes, effectivement, là, même si c'est surtout des hommes. Et au basketball, c'est qualifié hommes et femmes. Donc, ça n'a pas été comme nécessairement facile pour se qualifier pour ces équipes-là dans la dernière année. Là, elles ont participé à des tournois de la dernière chance, mais elles ont bien fait dans les dernières compétitions. Et je pense que c'est comme trois équipes, et le goalball, certainement, le goalball féminin, qui peuvent aspirer à monter sur le podium. Puis en individuel, il y a une trollée de noms. Moi, je pense à Priscilla Gagné. Elle a déjà dit que ce serait ses derniers jeux en parajudo. Elle a été médaillée d'argent à Tokyo. Je pense qu'elle a de très bonnes chances aussi d'être sur le podium, d'avoir une médaille. En athlétisme, on connaît pas encore exactement ce qui va se passer avec Brent Laqueta, qui avait remporté
oui,
quatre médailles.
Oui, de la région de Montréal, ici, tout à fait, qui avait dominé. Oui,
à Dorval, il avait remporté quand même quatre médailles à Tokyo. Là, je ne sais pas exactement il en sera où, là, son état de santé, si ça va lui permettre de participer aux Jeux, mais c'était son intention en tout cas. Sinon, il y a Anthony Bouchard, qui vient du Saguenay, qui s'entraîne dans la région de Québec. Fait de la course en fauteuil roulant, lui aussi. Il revient toujours d'une très bonne performance en Suisse et à Paris lors du circuit des Grands Prix. Il a amélioré son temps aux 400 mètres. Il a aussi été médaillé aux 100 mètres aux Jeux parapan américains à Santiago. Donc, lui aussi, il en est certainement un là, qui pouvait ramener une médaille dans ses bagages.
Mais je pense qu'il y a Aurélie Rivard, là, qui va être à ses quatrièmes paralympiques.
Ben oui, comme elle est tellement partie maintenant du décor.
Du décor, oui.
Exact. C'est une vétérane. Pas qu'on s'habitue à de grandes performances, mais tu sais, elle nous ramène des médailles à chaque fois qu'elle participe à des Jeux. Donc oui, puis on va la voir en individuel, mais ça va aussi être le fun de la voir dans des épreuves de relais. Tu sais, oui, l'équipe de paranatation canadienne devrait être assez bonne aussi. Moi, je pense à sa grande amie, Tess Whitley, que j'ai découvert cette année. On l'avait déjà vue, elle, au jeu de Rio. Elle avait eu une blessure juste avant les Jeux de Tokyo qui l'avait empêchée, une blessure au dos qui l'avait empêchée de participer, mais elle a vraiment... elle s'est remise sur pied. Là, elle a remporté des médailles très récemment aux Mondiaux de paranatation. Elle devrait faire équipe avec notamment Aurélie lors des relais. Ici, dans la piscine, il y a aussi l'écologie turbide. Il y en a vraiment plusieurs. Là, c'est comme... Puis souvent, c'est des Québécois aussi. Là, c'est ce qui a fait, je pense, la
oui, il y a une bonne délégation du Québec du côté de la natation, c'est juste.
Oui, depuis longtemps. Là, ça remonte à bien avant Benoît Huot, mais ça fait aussi partie des noms là, qui ont remis des médailles.
Je vais te poser une question d'un point de vue non pas de quelqu'un qui est familier avec les Paralympiques ou avec la communauté sportive handisport. C'est plutôt du point de vue de public dans un sens large. Les gens qui me parlent de Paralympiques, souvent, ils sont un petit peu déconcertés par le système de classification. Quand on voit que tel ou tel athlète est, mettons, S5 ou T32, là, on ne sait plus comment s'y retrouver. Est-ce qu'il y a une façon de comprendre ce système?
Oui, donc, tu sais, mettons, c'est pour tricycle, mais quand on parle de vélo, par exemple,
oui,
c'est souvent, c'est un lien avec le niveau du handicap ou encore avec le véhicule qu'il utilise lors de la pratique de son sport.
D'accord.
Puis il y a un chiffre qui est accolé de 1 à 5 qui va exprimer, qui va faire référence à la sévérité du handicap.
Et
du fort au moins fort, du plus handicapé au moins handicapé. Mais c'est vrai que c'est pour ça que des fois, ça paraît un petit peu indigeste, les résultats, parce que là, c'est le meilleur de sa catégorie, mais il y a eu plein de médailles, c'est difficile de les comparer. C'est sûr qu'il y a un travail de pédagogie à faire en même temps, je pense, pour bien faire comprendre aux gens les résultats.
Oui, parce que le principe de toute cette classification-là, c'est évidemment que la médaille soit, ou les médailles soient remises aux athlètes qui ont bien performé, sur un terrain d'égal à égal le plus possible, là, avec des personnes qui vivent la même situation, qui ont les mêmes challenges, parce que sinon, ce serait un peu le fouillis. C'est sûr que ça fait qu'il y a comme plusieurs épreuves qui ont l'air d'avoir une sorte de déclinaison de 100 mètres, là. Mais au final, ce sont tous des athlètes. Et je pense que c'est une des conséquences à la longue de l'intégration des Paralympiques dans le paysage de la société. C'est qu'on parle d'athlètes ici. On n'est plus dans le phénomène de l'inspiration là, ou de la personne qui, malgré tout, fait quelque chose là. On a dépassé ça depuis longtemps.
On est plus dans le sportif, effectivement. C'est comme le côté humain a beaucoup pris de la place. C'est correct, là, mais tu sais, maintenant, je pense qu'on est un peu plus dans les résultats athlétiques et sportifs. Oui. Comme Chantal Leclerc aussi l'a dénoté, comme elle qui a vécu la transformation paralympique, là. Fait que je pense qu'on peut beaucoup se baser aussi sur ce qu'elle nous dit, puis ça confirme un peu ça.
Est-ce qu'on peut se faire une idée de la place du Canada là, dans le classement des nations à la fin? Est-ce qu'on est en position pour être dans le top 10, le top 5?
Ouais, top 10, je pense que oui, top 5, c'est pas ça. C'est toujours compliqué. En fait, je parlais tantôt de l'attention des Chinois. Il y a beaucoup de pays qui portaient peu d'attention par rapport il y a quelques années à peine, qui ont mis vraiment des gros sous, des gros investissements. Puis au Canada, le sport amateur en général, il y a beaucoup de réflexions à avoir sur le financement avec le programme Amis le Podium. C'est vraiment la bonne manière d'encourager les résultats et les succès. Il y a comme des discours pour et contre là-dessus. Fait que, mais tu sais, je suis sûr qu'on va avoir plusieurs belles performances, plusieurs médailles, qu'on va sûrement avoir des surprises, puis des grands moments. Puis aussi, même s'il n'y a pas de médailles, il n'y a pas de résultats, souvent, c'est des athlètes qui reviennent, tu sais, 5e, 6e, je disais, moi, il y a 3 ans, je pratiquais même pas ce sport-là.
Oui.
Puis là, j'ai pu voyager, j'ai eu une super expérience, j'ai rencontré du monde. Ça devient une expérience de vie. Il faut aussi le voir sous ce sens-là et pas juste sous le sens des médailles. Mais c'est vrai que les médailles, c'est le fun. D'autant plus qu'il va y avoir des primes, des bonus aux médailles.
Oui, enfin, exactement. Enfin, voilà. Voilà des médaillés qui sont des médaillés comme tous les médaillés. Hein, ça a été une étape importante qui a été franchie cet hiver au niveau du Sport Canada. Ben, bravo, Kevin. Il y a une cérémonie d'ouverture, je suppose, qui est comme elle doit être, c'est-à-dire spectaculaire.
Oui, tout à fait. Puis on sera là à la description. Il y a donc moi. Je vais être co-chef d'antenne avec Geneviève Tardif qui sera à mes côtés. Puis on va avoir des gens sur le terrain aussi. Rosine Fillon, Benoît Huot, Jean Saint-Onge seront là. Donc ça va être, je suis bien content. Les émissions seront à partir de 15h en direct tous les jours pendant les Jeux paralympiques. Ça va être super agréable de faire ça.
En direct à 15h, on commence le 28 août. Parfait. Puis on va s'en reparler au retour quand notre émission reprend le 9 septembre.
Avec plaisir.
Merci beaucoup, Kevin. Bon été.
Salut, François. Bonne émission. Bye-bye.
Yeah. comme c'est dû pour trouver cher. Et toi, toi tu veux tout mon amour. Tout mon amour, puis tu veux jouer dans ta main.
Moi j'apprends à marcher plancher.
Une vieille chanson Cayenne, interprétée par Sal Barbe, oui, Marché de plancher. L'insécurité alimentaire, ça semble presque impensable, mais c'est certainement inadmissible dans une société évoluée. Et pourtant, ça existe bel et bien, et on pourrait dire de plus en plus, et d'une façon qui ne nous surprend pas. Enfin, ça ne nous surprendra peut-être pas totalement d'apprendre que les personnes en situation de handicap en sont particulièrement victime. J'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie Mme Souraya Pirali. Bonjour Mme Pirali, comment allez-vous?
Bonjour M. Beauregard, ça va très bien et vous?
Ça va bien. Vous êtes agence de défense collective des droits pour le dossier sécurité alimentaire chez Execo et votre équipe s'apprête à entreprendre une importante recherche.
Exact, c'est ça. On a débuté ce projet en janvier, un projet qu'on a appelé « Les personnes en situation de handicap ont faim ». On reçoit un financement de la Fondation Mirella et Lino Saputo, puis c'est un projet de 2 ans qui couvre tout le Québec, puis plusieurs déficiences, dont déficience motrice, auditive, visuelle, langage, intellectuel et troubles du spectre de l'autisme. Et le but est de comprendre, d'une part, pourquoi les personnes en situation de handicap, comme vous l'avez dit, sont plus susceptibles de vivre de l'insécurité alimentaire, de voir quels sont leurs besoins au niveau des ressources alimentaires et donc pour éventuellement pouvoir faire des recommandations pour rendre les ressources alimentaires plus accessibles à cette population qui en a grandement besoin.
Tout à fait. Statistique Canada nous révèle que, en fait, 3 fois plus souvent, les ménages où une personne est en situation de handicap vont se retrouver dans une situation d'insécurité alimentaire. On parle de 27%, ce qui est on parle presque du tiers contre 9% de la population en général. D'abord, définissons l'insécurité alimentaire. Comment ça se vit? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un, on peut dire de quelqu'un, cette personne vit une insécurité alimentaire?
Bien sûr, l'insécurité alimentaire, la façon dont dont le voit Statistique Canada, par exemple, il y a plusieurs degrés d'insécurité alimentaire.
D'accord.
On va parler d'insécurité alimentaire marginale, modérée ou grave. Pour ce qui est de marginale, c'est déjà l'inquiétude de manquer de nourriture ou de devoir restreindre ses choix alimentaires, notamment en raison d'un manque de ressources financières. Modérée, c'est qu'on commence à réduire la qualité ou la quantité des aliments qu'on consomme. Et grave, c'est qu'on doit sauter des repas et qu'on a un apport alimentaire réduit ou dans les pires des cas, passer un ou plusieurs jours sans nourriture.
Oui, d'accord. Alors, ça part de ne pas manger ce que l'on veut, puis après ça, devoir commencer à chipoter puis faire des économies pour y arriver. Puis à la fin, finalement, on se prive de nourriture. Puis là, évidemment, l'insécurité alimentaire, c'est une responsabilité sociale pour tous parce que ce sont des êtres humains, mais en plus d'un point de vue de société, ça a des répercussions sur le système de santé, sur la productivité, sur toutes sortes de choses. Là. C'est pas
absolument, oui.
des gens qui ne mangent pas à leur faim, que ce soit des enfants à l'école ou des adultes ou des personnes qui ont plutôt près de la fin de vie, on peut dire tout ça, il n'y a pas de place. Quel est le facteur? Est-ce que c'est uniquement financier?
En fait, là, on en est à la première étape du projet, c'est donc de faire une recherche sur les causes de l'insécurité alimentaire. Puis on regarde, en effet, d'un côté, les raisons qui font que les personnes sur son handicap ont des revenus moins élevés.
Oui.
Donc on regarde l'accès à l'éducation ou à l'emploi, quels sont les obstacles, puis les revenus, les programmes sociaux, est-ce que sont suffisants pour subvenir à leurs besoins. Donc ça, c'est un peu comme les causes du manque de revenus, mais il y a aussi, d'un autre côté, les causes des dépenses ruineuses comme on peut dire, qui existe pour les personnes en situation de handicap, puis pas forcément pour les personnes sans incapacité. Par exemple, au niveau du logement, il y a une crise du logement, mais alors avoir accès à un logement qui soit accessible et abordable, ça devient vraiment mission impossible.
Donc finalement, on se retrouve souvent dans des logements qui ne sont pas tout à fait accessibles, donc dangereux, et en plus, pas abordables. Alors, donc, ce qui reste pour se nourrir commence à être vraiment coincé.
C'est ça, comme on dit, le logement, c'est une dépense incompressible. Oui. Donc, on va couper là où on peut, ben, notamment dans ce qui est de l'alimentaire. Par rapport aux dépenses, il y a aussi le soutien à domicile. Est-ce que les personnes ont des heures couvertes par le soutien à domicile qui répondent à leurs besoins? Par exemple, pour tout ce qui est aide à la vie domestique, de préparation de repas, de tout ça. Puis, s'ils n'ont pas les heures dont ils et elles ont besoin, ben là, peut-être qu'ils vont devoir payer de leur poche. Donc, ça fait des dépenses à couvrir en plus. Pareil pour les appareils techniques, tous les coûts liés aux déficiences, est-ce que c'est remboursé par la RAMQ? Est-ce qu'on doit débourser nous-mêmes pour avoir accès à ces appareils techniques-là? Tout ça, ça fait que les personnes sous son handicap peuvent avoir plus de dépenses et donc être plus à risque de vivre de l'insécurité alimentaire.
Et aussi, ça peut souvent, je pense, se reflète, les gens sont coincés à des choix alimentaires qui ne sont pas toujours sains. Les aliments hyper préparés, là, transformés, peuvent être pratiques. Ce sont souvent ceux qu'on trouve dans les magasins de première ligne les plus près de la maison, mais ça ne veut pas dire que ce sont les plus sains. Ça devient un luxe de manger sainement, là. Trouver des fruits et des légumes, c'est pas donné au coin de la rue.
Absolument, sainement et qu'il soit abordable. On parle de déserts alimentaires, mais là même, on pourrait être, par exemple, sur le plateau Mont-Royal à Montréal, puis se dire qu'on a des épiceries un peu partout, mais si elles ne sont pas accessibles, ben on se retrouve en fait dans une situation de désert alimentaire où il y a plein de dépanneurs à chaque coin de rue, mais là encore une fois, est-ce qu'ils sont accessibles ou pas? À ce moment-là, on doit se faire livrer sa nourriture, mais là, ça implique des coûts supplémentaires encore une fois. Donc, la question de l'accès physique aussi aux aliments se pose, puis des aliments de qualité et abordables.
Oui, parce que souvent, si on parle d'une situation économique, les personnes en situation de handicap sont généralement défavorisées d'un point de vue économique. Ils sont plus pauvres. Ils se retrouvent donc souvent aussi dans des quartiers où l'offre est moindre. Et là, si en plus on y rajoute une couche d'accessibilité des lieux physiques, ben là, il n'y a plus beaucoup d'options. Hein? C'est ça qui... Comment ça fonctionne, votre étude? Est-ce que les gens vous contactent ou vous les contactez? Est-ce que c'est sous forme de sondage? Comment est-ce que vous faites votre échantillonnage?
On va mettre plusieurs choses en place. D'abord, on a monté un comité de partenaires, donc avec Execo, nous on travaille à la promotion des droits des personnes qui ont une déficience motrice, puis pour la région de Montréal, mais là le projet c'est pour tout le Québec, puis pour plusieurs types de déficiences. Donc on a fait un comité avec des personnes qui travaillent avec d'autres déficiences pour avoir leur point de vue, puis leur expérience. Grâce à eux et elles, on va faire un sondage.
D'accord.
Pour connaître notamment les besoins en termes de ressources alimentaires, comme est-ce que les personnes en situation de handicap ont plus besoin de cuisine collective, de marchés solidaires, de banques alimentaires, etc. Puis on va faire des groupes de discussion par déficience pour encore une fois voir quels sont les besoins puis comment faire pour rendre ces ressources alimentaires-là plus accessibles. Ça va être dans quelques semaines qu'on va commencer à travailler là-dessus, mais bien sûr, n'importe qui voudrait me partager son expérience ou qui serait intéressé à en apprendre plus sur le projet peut me contacter directement.
Donc, cet échantillonnage-là, vous allez cartographier, si je peux dire, l'insuffisance ou l'insécurité alimentaire au Québec, savoir où sont les zones les plus... les plus en difficulté. Mais en même temps, il y a aussi une question de savoir comment est-ce qu'on peut rejoindre ou aider quelqu'un qui est en situation de handicap pour pallier à ça. Nous parler de banque alimentaire ou de cuisine solidaire, ainsi de suite. Ce sont des ressources, malheureusement, qu'on ne retrouve pas partout.
Exact. Puis c'est quelque chose qu'on veut regarder dans ce projet-là, qui sont un peu les inégalités territoriales aussi. C'est sûr que il y a plein d'enjeux à Montréal, mais les enjeux ne vont pas être à Montréal que dans des régions éloignées où il n'y a pas le même type d'offres en termes de services alimentaires. Donc c'est quelque chose qu'on veut regarder, quelle est la situation des personnes en région et également où là il y a des enjeux de transport qui se rajoutent encore.
Oui, voilà. Et une fois que, c'est une étude quand même exhaustive, vous vous donnez 2 ans, donc tout ça devrait aboutir à un rapport déposé l'été prochain, dans 2025?
Ça a commencé en janvier, donc le projet se terminerait en janvier 2026.
D'accord, mais donc, et à ce moment-là, on aurait un rapport qui serait, qu'en faire à ce moment-là? Parce que sans action concrète, la situation va malheureusement perdurer.
Exact. En fait, les livrables de ce projet, ce sont 2 plans d'action. Un plan d'action pour agir sur les causes, donc en amont de l'insécurité alimentaire chez les personnes sous handicap, puis un autre parce que d'ici à ce qu'on résolve tous les problèmes de revenus, etc., ça risque de prendre longtemps, puis il y a des personnes qui ont faim maintenant. Le deuxième plan d'action vise à des recommandations pour rendre plus accessibles les services d'aide alimentaire.
Oui, exact, parce que c'est sûr que d'un point de vue structurel, la poussité relative des personnes en situation de handicap, ça ne se réglera pas du jour au lendemain, malheureusement. Là, c'est comme tout un tournant que la société doit prendre. Mais les solutions, peut-être, de mieux utiliser les ressources disponibles, c'est certain qu'on peut bien le croire que vous alerteriez les gouvernements à ce sujet, mais malheureusement, c'est pas une situation qui est en tête de liste, hein? Assez souvent. Vous dites que si des gens veulent vous rejoindre ou des organismes qui peuvent vouloir vous contacter pour participer à cela, parce que c'est sûr qu'ex aequo, comme vous le mentionniez en entrée de jeu, c'est plutôt un organisme montréalais. Mais là, on veut faire quelque chose pour toute la province. Comment est-ce qu'on peut vous rejoindre, Mme Pirelli?
Les gens peuvent m'écrire donc à spirelli@execo.net ou directement à l'adresse générale d'execo, info@execo.net ou par téléphone au 514-288-3852 poste 20. Ça me fera plaisir de discuter de ce projet-là.
Bien, je vous remercie beaucoup d'avoir été des nôtres et j'espère que tout le monde y participera parce que c'est en le sachant qu'on va être capable de le résoudre. Voilà.
Merci beaucoup, M. Beauregard.
Merci, bon été.
Merci, au revoir.
Détour avec François Beauregard.
Et avec Mme Isabelle Ducharme. Bonjour Isabelle, comment vas-tu?
Bonjour François, ça va bien et toi?
Ça va bien, merci. Isabelle, présidente du conseil d'administration de Kéroul. Et quand on pense à Kéroul, on pense à sortir de chez soi, d'aller faire des activités adaptées, accessibles un peu partout au Québec et ailleurs. Mais on va peut-être plus souvent y penser l'été. Il y a plus d'activités qui nous sont offertes, qui sont disponibles l'été. Et c'est le moment de jeter un coup d'œil, je dirais, à toute l'offre que Kéroul, année après année, nous offre dans vraiment là, un catalogue. On peut faire quelque chose presque tous les jours.
Oui. Mais j'aimerais quand même dire que c'est important de voir qu'il y a des choses qu'on peut faire les autres saisons.
L'hiver aussi, oui.
Mais c'est sûr que les personnes en situation de handicap, en général, on a plus tendance à s'activer l'été. Fait que aller sur notre site web, aller dans nos documentations pour toutes les saisons, mais tu as bien raison que à chaque printemps, on sort la nouvelle édition de la brochure « Le Québec pour tous ». Où là, on met ce qu'on a de nouveau pour l'année et en particulièrement, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour l'été, dans la nouveauté dans le plein air, dans l'explorer, l'extérieur, et etc. Donc, ça fait toujours plaisir, mais toute l'information est toujours aussi sur le site web Le Québec pour tous pour faire son propre itinéraire à sa propre façon en fonction de ses besoins précis. dont bien sûr tout ce qui a un lien avec la déficience motrice, mais on peut aussi faire une recherche en fonction de ce qui existe pour les personnes avec une déficience visuelle ou avec une déficience auditive. Puis on va même y ajouter bientôt, là, on fait des démarches là, pour comment on va pouvoir intégrer aussi d'autres types de déficiences dans ce qui est nommé comme qui pourrait être dans un engin de recherche. Là.
D'accord.
Mais sinon, si on va sur le site web d'une salle de spectacle ou d'un
ça peut être un sentier pédestre, ça
exact.
Peut être toutes sortes de choses.
Mais s'il y a des choses qui sont aussi adaptées pour des personnes qui sont sur le spectre de l'autisme ou autre, on va aussi le mentionner, bien sûr.
D'accord. Puis parce que cette année, l'offre a encore grandi. Vous avez été capable à la fois de trouver, de répertorier et d'aider aussi les personnes qui gèrent des sites à ce qu'ils deviennent plus accessibles. Parce que ce n'est pas que de les répertorier. Kéro a un impact dans le milieu.
Oui, d'ailleurs, notre équipe a quasiment doublé dans la dernière année et c'est en partie par l'augmentation de demandes d'évaluation des lieux où là, on va dire c'est accessible, c'est partiellement accessible, c'est pas accessible. Si c'est partiellement accessible ou pas accessible, on va même les accompagner là-dedans. On a d'ailleurs reçu la gestion d'un programme qui s'appelle le programme de l'accessibilité des établissements touristiques, dont on peut trouver l'information sur notre site web aussi. Et ça permet aux entreprises qui ont besoin d'argent pour se rendre accessible de déposer un projet. Puis ça peut aller jusqu'à 100 000 $ pour une entreprise par elle-même ou plusieurs entreprises pourraient se mettre ensemble puis faire une agglomération. Là. Fait que ça nous a permis effectivement d'ajouter encore beaucoup d'établissements dans notre liste, autant dans les établissements pour faire des activités à l'intérieur, découvrir, comme je disais, là, des musées, des choses comme ça, que pour des escapades et autres. Fait qu'on est quand même très, très content de ça.
Ben, la badge, les Français diraient le label qui roule, là, c'est quelque chose qui est recherché maintenant. L'industrie touristique commence à embarquer là-dedans.
Oui, effectivement. Avant, il fallait cogner aux portes. Les gens étaient un peu méfiants. Se demandaient si on venait, surtout pour, mettons, les restaurants. Êtes-vous des inspecteurs cachés?
Ouais, ouais,
donc, maintenant, on va encore cogner à des portes parfois. À l'occasion, mais on a beaucoup, beaucoup des gestionnaires de l'industrie touristique et culturelle qui nous appellent, qui disent ben là, on fait des rénovations, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer? Il y a des entrepreneurs qui nous appellent avant même de se bâtir pour dire moi, je veux me bâtir, mais je veux être sûr d'être accessible en partant. Fait que ça, c'est magnifique pour nous. Là. C'est vraiment. On n'est plus obligé de se battre autant pour que les gens comprennent. On nous invite dans des conférences au Québec, au Canada, à l'international pour parler justement de notre modèle d'affaires, de notre collaboration, comment on obtient autant la collaboration des entreprises que la collaboration des paliers gouvernementaux, que ce soit municipal, provincial ou autre. Là.
Oui, exactement. Oui, parce que dans l'industrie du tourisme, il y a beaucoup d'intervenants à tous les niveaux. Cette année, entre autres, vous avez conçu un itinéraire Bas-Saint-Laurent-Gaspésie.
Oui, en fait, c'est super intéressant ça aussi parce que nous, ça fait longtemps qu'on donne de la formation pour les agents de voyage. Puis dans les dernières années, on a donné deux formations pour l'Association des agences réceptives et forfaitistes du Québec. Et ils nous ont approchés, puis on dit, ben nous, on aimerait ça faire un itinéraire accessible que les gens peuvent peut-être même faire par eux-mêmes ou réserver avec nous s'ils veulent le faire en groupe. Fait que c'est un bel itinéraire qui part du Bas-Saint-Laurent, puis qui va jusqu'en Gaspésie, puis qui va chercher un peu les goûts d'un peu tout le monde, si on veut.
D'accord.
Fait que c'est une espèce de road trip qu'on peut faire si on suit l'itinéraire qu'on a donné. Sinon, on peut le faire par nous-mêmes. Mais l'itinéraire proposé, c'est de 10 jours, 9 nuits. Et ça nous permet donc de voir là, comment le golfe du Saint-Laurent peut changer d'allure au fur et à mesure qu'on avance vers la Gaspésie. Puis moi, j'ai des coups de cœur que j'ai pas nécessairement eu le temps de visiter encore. mais qui sont dans ma bucket list, puis que j'entends, je vois tellement des belles photos, puis qui sont particulièrement bien adaptées.
Comme par exemple,
en partant de Rimouski, il y a le sentier du littoral et de la rivière de Rimouski.
Oui.
C'est comme 3,7 kilomètres aller-retour, là, si on fait le...
La boucle.
Puis il y a plein de panneaux pour l'interprétation de la nature. Ça va de autant du boisé, des marais, tout ça. Donc, vraiment, puis naturellement, Rimouski, quel meilleur endroit pour s'asseoir pour regarder le soleil se coucher.
Ah oui, tout à fait. Puis il y a des bons restos aussi.
Oui, exact. Uh-huh. Puis l'autre endroit, moi, vous connaissez, je pense, depuis le temps, ma passion pour la bouffe. Depuis le nombre de fois que je fais des chroniques. Alors, au Jardin des Métis, qui est quand même...
Une référence, oui. C'est un incontournable. Si vous prenez la 132, il faut que vous arrêtiez là.
Exact. C'est un lieu historique national du Canada. C'est un site patrimoine du Québec. Il y a plus de 3000 espèces végétales. Puis, le grand bonheur, c'est que si on va manger au resto qui est sur place, c'est que ils utilisent les végétaux de la place pour intégrer dans la bouffe. Donc, les belles petites fleurs, les légumes et les fruits cueillis sur place, etc. Donc, c'est vraiment magnifique, là.
Wow.
Tout le temps pour une dernière petite question.
Ah, ben oui, tout à fait.
Parce que moi, ce que je ne savais pas, puis que je pense que la moyenne des Québécois sont comme moi, il y a un musée acadien du Québec.
Ah,
donc,
oui?
À Bonaventure, il y a un musée sur comment il y a des Acadiens qui
tout
se sont intégrés au Québec. Moi, j'ai toujours pensé que c'était juste dans les Maritimes. Mais donc, il y a un musée sur comment les Acadiens se sont intégrés dans cette partie du Québec. Fait que moi, je trouve ça hyper intéressant d'aller découvrir ça. Puis, si on peut même se préparer en allant sur le site web pour en apprendre un peu avant. On peut avoir des visites guidées. Donc, quelqu'un qui aime moins lire les panneaux, quelqu'un qui aime moins...
Tout à fait.
On peut être accompagné là-dedans. Fait que c'est hyper intéressant. Puis ça, c'est juste trois choses parmi les tonnes de choses qui sont dans l'itinéraire.
Oui, ça, c'est l'itinéraire. Parce que il me semble que tout le monde au Québec, quand on est jeune ou plus vieux, là, un jour ou l'autre, il fallait faire le tour de la Gaspésie. Hein? C'est comme... c'est comme une sorte de pèlerinage, là, au moins une fois dans sa vie.
Ouais.
Puis c'est sûr que de ne pas savoir qu'est-ce qui est accessible, on ne veut pas se retrouver coincé là, tout d'un coup dans l'itinéraire. Ben là, d'avoir cet itinéraire 10 jours, 9 nuits, je dirais tout préparé à l'avance par Kérol. Et encore une fois, on peut le faire par soi-même.
Oui. Moi, ce que je trouve intéressant aussi de dire aux gens, c'est que nous, on donne des formations, on offre des formations aux gens, à toutes les personnes, tous les établissements où on a passé, puis on a donné une cote d'accessibilité. En même temps, on leur offre de suivre la formation à l'accueil, donc d'être mieux sensibilisés quand quelqu'un vient nous voir, vient visiter, que les gens soient moins mal à l'aise, qu'ils comprennent que on est du monde comme tout le monde, puis qu'on peut nous parler comme à d'autres clientèles.
Exact.
Avec la même gentillesse et sans crainte et sans se sentir mal à l'aise, en fait. Là, c'est juste les mettre un peu en contexte là, que on est comme tout le monde. Il y en a des riches, il y en a des pauvres, il y en a des gentils, des moins gentils.
Des moins gentils, il y en a qui veulent plutôt tel type d'expérience. Il y en a d'autres qui cherchent plutôt à faire différemment autre chose. Mais c'est ça. C'est juste une autre tranche, si je peux dire, représentative de la population. Qu'est-ce que Kérol va faire au cours des prochains mois? Est-ce qu'il y a d'autres projets qui commencent à mijoter?
Ben oui, en fait, parce qu'on a eu un autre budget qui a été débloqué, qui a été annoncé au mois de mai par le ministère du Tourisme, comme quoi on a un montant pour faire vraiment tout l'espace de l'île de Montréal, l'espace de Québec, pour se concentrer, pour évaluer le plus d'endroits possible dans une même période. Dans ce même enveloppe-là, il y a aussi un budget pour évaluer des chalets, des stations de ski.
D'accord.
Et travailler avec le tourisme autochtone aussi pour développer l'accessibilité.
Là on parle donc de pôle touristique qui serait Montréal, puis la capitale nationale.
Exact. On va commencer par ça.
Exact. D'accord.
Puis après, on va se concentrer. Mais tu sais, en y allant par pôle, c'est plus facile que d'y aller un peu à la pièce où on fait 3-4 à Rimouski, 3-4 à Ottawa, à Gatineau, ou peu importe. Donc là, au moins, on se concentre sur ces pôles-là. On va en faire le plus qu'on peut. Malheureusement, c'est pas une question où on peut s'imposer. C'est vraiment une question où on offre d'être évalué. Et ensuite, ben pour eux, ils sont répertoriés non seulement dans notre site web, mais aussi dans le site web du ministère du Tourisme à Bonjour Québec.
Exact. C'est ça. Donc, c'est pas une obligation, mais ça commence à devenir. C'est pas une obligation légale, mais ça commence à devenir la façon de faire si on veut avoir une offre touristique que les gens vont apprécier.
Oui, qu'on entend de plus en plus des gens qui disent, même si moi, je n'ai pas de limitation physique, je n'ai pas de déficience visuelle ou autre, quand je vois un endroit qui n'est pas accessible, je n'y vais pas.
Oui, voilà. Exact.
Il va falloir que ceux qui sont moins convaincus, qui comprennent moins le bien et le besoin, je pense qu'à un moment donné, ils n'auront pas le choix de suivre la parade et de se rendre compte que c'est un gain pour tout le monde. Ils vont recevoir plus de monde. Puis pour la société, ben, tout le monde peut plus faire les mêmes activités ensemble, en famille, entre amis,
oui.
Même si une personne parmi eux est en situation de handicap ou pas.
Oui, puis avec le vieillissement de la population, de toute manière, les challenges de mobilité ne feront qu'augmenter.
Exact.
Alors, il faut avoir une vision large de ce qu'est un lieu accessible. Ce n'est pas uniquement l'image qu'on s'en fait a priori. Ben, Isabelle, on n'a pas aucune raison de rester à la maison, de se cantonner. Il y a plein de sites, il y a plein de choses à faire et à voir et à parcourir au Québec.
Aux gens qui ont envie de se promener et qui voient des endroits qui ne sont pas tout à fait bien adaptés ou qui ne sont pas complètement accessibles, ou même qu'ils le sont, mais qui ne sont pas répertoriés chez nous, envoyez-nous-les.
D'accord.
Donnez-leur le nom puis de qui roule, puis dites-leur qu'on est là pour les accompagner s'ils veulent se rendre accessibles, ça va nous faire plaisir. Puis sinon, de les remettre dans notre répertoire s'ils sont déjà accessibles.
Ben oui, puis comme ça, tout le monde peut partager l'information, tout à fait. Ben encore une fois, votre magazine d'été, là, il est sur le coin de la table à la maison, là. Puis,
magnifique.
Chaque week-end, ça commence par le feuilleter, voilà.
Donc, Le Québec pour tous en magazine ou lequebecpourtous.com pour le site web.
Parfait. Ben, bel été, Isabelle.
Merci beaucoup. À toi aussi.
Ah, George Harrison, la version instrumentale. Hein? What is Life? Une pièce qui est tirée de l'album All Things Must Pass. On aurait pu faire tourner All Things Must Pass aussi. Ça, c'est bon à écouter quand ça va moins bien. Quoi qu'il en soit, voilà, dernière de l'année, Élisane.
Oui, bonjour François.
Enfin, vous rentrez à la maison pour l'été.
Oui, tout à fait, je vais rentrer à la maison un peu, mais on va se retrouver bien vite. L'été passe toujours vite, François.
Oui, ça c'est vrai. Ben, trop ou... Enfin, c'est...
trop,
des fois ça passe trop vite, mais la vie est ainsi faite. Mais on commence en Tunisie.
On commence en Tunisie, un endroit où on ne va pas souvent, François, parce qu'il y a une invention 100% féminine et 100% tunisienne.
Oh.
Un fauteuil roulant commandé par le cerveau. Donc, effectivement, on peut, à l'aide de voix, de grimaces ou de clignements des yeux, par exemple, faire avancer, reculer le fauteuil et différentes autres commandes. Ce qui fait que c'est évidemment intéressant pour les personnes qui sont paralysées lourdement,
oui,
et qui ne pourraient pas utiliser leurs bras ou même leurs mains pour avancer. Et donc, voilà, c'est une nouvelle invention qui a été faite et c'est pour être finaliste d'un prix d'innovation européen.
Exactement.
Pour remporter jusqu'à 20 000 euros.
Un prix donc prestigieux, ça va être annoncé le 9 juillet.
Oui, effectivement, dans quelques jours. Mais que le prix soit remporté ou pas, là, cette invention-là est quand même une invention tout à fait adéquate et exceptionnelle. Donc, on pense que effectivement, ça pourra être mis sur le marché éventuellement.
Oui.
Le revers de la médaille, évidemment, c'est que ce type d'équipement coûte cher.
Oui, ça, on peut supposer que, ben, surtout au début,
les premiers
modèles ne seront pas donnés.
De coûter cher, mais on pourrait peut-être démocratiser, trouver des façons de rendre moins cher au niveau de la fabrication si on fabrique en masse et pouvoir baisser le prix.
Ben, c'est Kaoula Ben Ahmed et Soleima Ben Temim qui sont deux femmes ingénieures tunisiennes, cofondatrices de la firme GeWinner, GeWinner. Alors, si le concept vous intéresse, vous pouvez aller faire une recherche Internet, GeWinner, et en savoir un peu plus long. C'est sûr que là, on est encore à l'étape du prototype. Hein,
on est encore à l'étape du prototype, mais quand même, on parle de bonnes avancées. Évidemment, ça va donner des idées à toutes sortes d'autres inventeurs, ingénieurs, et effectivement, on va pouvoir...
Peut-être en avoir sur le coin de la rue un jour.
Éventuellement, peut-être, François.
Ben, en parlant de coin de la rue et de fauteuil...
Vous avez la suite à les idées, François?
Oui, ben vous aussi, parce qu'en France, on est en train de trouver un truc pour motoriser les fauteuils qui ne le sont pas. Et faire de la livraison de nourriture à domicile.
Oui, effectivement. Donc, on parle de fauteuil roulant qui a été mis sur une trottinette, donc pour le rendre mobile. Et puis, on a fait l'expérience de livrer des repas avec Uber Eats à l'aide de ces... fauteuils roulants qui ont été rendus moteurs. Donc, tout ça pour faire une expérience sociale, en fait, pour montrer que les personnes en situation de handicap peuvent être autonomes.
Exact,
parce que
oui,
plus d'un Français sur deux pense que handicap égale non-autonomie, donc que les Français qui sont en situation de handicap sont... incapables complètement de vivre leur vie et d'être indépendants. Et donc, ce qu'on voulait montrer en allant porter des livraisons à domicile là, à des personnes qui avaient commandé, c'est qu'en fait, ben, ils sont capables de se déplacer. Il suffit de leur donner les outils nécessaires et les personnes donc ont reçu leur repas à temps. Encore chaud, et ça a pu démontrer que
la pizza n'était pas gratuite.
La pizza n'était pas gratuite au grand dam des utilisateurs, mais quand même, ça a pu montrer que personnes françaises en situation de handicap peuvent tout à fait se débrouiller, et ça faisait de sensibilisation au même moment.
Oui, et ce qui est intéressant, c'est que ça l'a fait d'une pierre deux coups, parce qu'il y avait l'aspect de sensibilisation, de voir des personnes en fauteuil faire de livraison. Donc, on les voit là qui parcourent les rues de la ville et qui font quelque chose quand même qui est sympa. Il y a rien comme de la nourriture pour se faire des amis. Puis, En plus, ben, c'est Charlotte Allot qui est en fauteuil depuis l'âge de 4 ans, qui est une entrepreneur, et elle a trouvé une façon donc de prendre un fauteuil mécanique et de le rendre électrique grâce à une trottinette. Oui. Alors, elle est en train de motoriser les fauteuils qui dépendaient de l'énergie humaine, si je peux dire.
Oui. Effectivement, donc c'est une autre. Il y a différents trucs sur le marché qui existent là, pour rendre un fauteuil manuel motorisé. Par contre, ce serait plus abordable pour les personnes qui en ont besoin. Et effectivement, ça pourrait donc être quelque chose à démocratiser dans les prochaines années, dans les prochains mois.
Parfait, ben oui. Puis, parce que le handicap, il y a des chiffres qui sont sortis pour l'Union européenne.
Oui, on a sorti des chiffres dans l'Union européenne. Donc, on parle de chiffres de 27% de la population européenne, donc 101 millions d'Européens qui seraient en situation d'handicap, ce qui est quand même énorme. Là, on
c'est
parle
beaucoup.
D'une personne sur quatre. Un peu plus d'une personne sur quatre même, alors qu'ici, on est autour de 10 ou 12 % là, tout dépendant.
Ben, ça dépend toujours de la définition.
Oui, oui.
Hein,
tout ça, dépendant c'est... de ce qu'on inclut ou de ce qu'on exclut, mais ça vous donne quand même une idée. Donc, il y en aurait deux fois plus qu'ici, au Canada. Donc, il y a énormément de gens qui sont en situation d'handicap au niveau de l'Union européenne.
Ben, et ça va créer, heureusement, de la pression sur l'accessibilité, ainsi de suite. Ça l'a passé un petit peu à côté de la coche aux dernières élections. En parlant d'handicap, il y avait un énorme événement à l'ONU.
Oui, un énorme rendez-vous, François, qu'on appelle le COSP17. Donc, c'est une réunion annuelle sur le handicap, sur les droits des personnes en situation de handicap. C'est relatif à la convention relative aux droits des personnes en situation de handicap qui a été signée donc en 2006 et depuis 2008. Donc, c'est un événement annuel.
Ça, c'était la semaine dernière.
Oui, c'était
terminer.
La semaine dernière. Ça vient de se terminer. Donc, c'est à New York. Et évidemment, bon, on va pour parler des droits des personnes en situation d'handicap, de leur droit à l'emploi, des nouvelles technologies, des situations de risque et de
oui.
l'aide de l'urgence humanitaire par rapport aux personnes en situation de handicap, parce qu'évidemment, l'aide humanitaire n'est pas toujours adaptée à ces personnes-là.
Et malheureusement, on est... Les dernières actualités ont fait que l'aide humanitaire a pris de la place dans les manchettes.
Oui,
là, avec
malheureusement,
les conflits armés.
Il y a beaucoup de conflits armés et ça rend, évidemment, il y a beaucoup de personnes qui sont blessées, donc de personnes qui sont en situation de handicap là, suite à ce conflit-là, qui se retrouvent dans des endroits de services humanitaires, dans des camps, entre autres, où c'est absolument pas adapté, où on n'arrive pas à leur donner des services adéquats. Là.
C'est le désert, totalement. Avant d'aller à la pause, soulignons qu'il y a un nouveau mouvement international de jeunes en situation de handicap, le IMYD, International Movement of Youth with Disabilities, qui a été officiellement lancé au moment de cette... parallèlement à cette réunion de l'ONU. La mobilité des étudiants en situation de handicap étant un enjeu essentiel, justement, pour valider certains cursus, effectuer des stages à l'étranger. On en avait déjà parlé. Alors, ça va être une nouvelle référence, Élisane,
oui.
L'IMYD.
Et Kemal Kara, de Diversité et Inclusion et des personnes à mobilité réduite, donc un ministre qui était sur place hier soir. Semaine dernière pour discuter du handicap à l'ONU.
Ben bravo, on revient tout de suite après la pause, puis on poursuit à faire un petit tour en Europe avant de revenir chez soi.
Tour avec François Beauregard.
Bonjour, comment ça va? La saison de football est recommencée et, bien évidemment, Élisane et moi...
On parle de football pendant
On parle de football, puis on n'a pas manqué le match des Alouettes de vendredi passé, même si c'est à tard. Voilà. Bon, on revient à nos moutons. L'accessibilité dans les festivals, l'accessibilité culturelle, c'est important.
Oui, 75 % des personnes en situation de handicap qui ont été interrogées ont fréquenté au moins une fois par an un lieu culturel. Par contre, évidemment, il déplore des problèmes au niveau de l'accessibilité, François. Bien sûr, entre autres, le prix Hein, pour 40 des personnes interrogées, le prix est quand même élevé. On sait que les personnes en situation de handicap, malheureusement, sont plus en situation de pauvreté que les autres. Entre autres à cause de la difficulté d'accès à l'emploi, mais pour bien d'autres raisons aussi. On a aussi l'affluence, donc il y a trop de gens, et ça, je dois avouer...
Ça, c'est insécurisant, oui.
Que ça me parle. Quand il y a beaucoup de gens, et puis que tu essaies de passer avec un fauteuil roulant, c'est pas facile.
Ou, quand, ou une canne blanche, oui, ou voilà, ainsi de suite, puis on est dans une foule où les gens marchent... un peu dans tous les sens, là. C'est difficile de se faire des repères.
Moi, je trouve ça difficile, là, sur mon anxiété. Il y a aussi, bon, l'accessibilité des lieux, bien sûr, pour 19 % des gens. C'est parfois pas accessible du tout. Parfois, il y a place... qui nous sont accessibles sont les plus mauvaises de l'endroit. Donc, on est sûr qu'on verra absolument rien.
Voilà, oui, on connaît l'histoire. Oui. Puis évidemment, ben, il y a les toilettes aussi, que ça, c'est dans, surtout les trucs à l'extérieur.
Oui, hein, et la fameuse bécosse. Hein.
Les boîtes bleues,
tout,
là.
Oui,
les boîtes
elle n'est pas du tout adaptée aux personnes en situation de handicap. Essayer d'entrer un chien là-dedans ou une
ça marche pas.
Un fauteuil roulant, François.
Ça commence par une marche.
Oui, ça commence par une marche également.
Voilà, tout à fait. Il faut dire, soyons transparents, parce que peut-être que d'entrée de jeu, on a manqué de le signaler. Ce sont des chiffres français.
Oui, ce sont des chiffres français. C'est une étude française. Par contre, effectivement, ça nous porte à réfléchir là, sur l'accessibilité de la culture parce qu'on a un peu la même situation au Québec hein, dans les festivals d'été, entre autres.
C'est pas différent, exact. Toujours en France, pour terminer de ce côté-là de l'Atlantique, il y a les travailleurs handicapés sont surexposés aux risques professionnels.
Oui, une autre étude française, François, qui est sortie, entre autres, elles sont surexposées à la soumission à des bruits intenses dans 27 % des cas. Pour les personnes qui ne sont pas en situation de handicap, on parle de 18 % seulement. On parle évidemment du taux de chômage qui est beaucoup plus élevé, donc deux fois plus que la population en général. Et au niveau, donc sur les lieux de travail, on parle d'un manque d'autonomie, de marge de manœuvre qui sont plus réduites, de problèmes au niveau de l'accessibilité physique, de l'intensité du travail, et aussi quelque chose auquel on ne penserait pas, mais du manque de reconnaissance des personnes en situation de handicap.
Tout à fait, parce que là, il peut y avoir des barèmes de productivité qui ne sont pas toujours les mêmes. Et le fait qu'il y ait un chômage plus élevé chez les personnes en situation de handicap, ben là, ça peut peut-être conduire quelqu'un, une personne en situation de handicap à accepter un emploi, entre guillemets, à tout prix.
Oui, ben en fait, quand on est en situation de pauvreté, hein, François, on sait comment ça marche. Ouais. On prend un emploi et on fait avec.
On prend ce qu'il y a et on se plaint pas.
Oui, voilà, malheureusement, peut-être que de faire valoir nos droits à ce moment-là devient difficile parce qu'on est en situation, donc hiérarchiquement, là, on est en bas. Et donc, on ne veut pas trop s'imposer. On ne veut pas se faire mettre à la porte, évidemment.
On
ne
veut pas faire de vagues. On ne veut pas être... c'est ça. Si ça a été déjà difficile d'avoir un emploi, on ne veut pas le perdre.
C'est évidemment illégal là, de se faire renvoyer pour ces questions-là, mais encore faut-il après prendre un avocat et tout ça. Bon, on ne veut pas entrer là-dedans. Donc, la plupart des gens vont essayer d'être plus doux. Et de ne pas trop se plaindre. Donc, ça veut dire aussi s'exposer à des risques d'accident, entre autres, ou à des risques de répercussions psychologiques.
Tout à fait. Et la première statistique que vous aviez mentionnée au sujet du bruit excessif, parce que souvent, on ne pense pas à ça, mais souvent dans des ateliers, dans des endroits de tri de matières recyclées, c'est très bruyant et peut-être que les gens n'ont pas accès à tous les équipements nécessaires.
On parle aussi donc de gestes très répétitifs, donc qui peuvent causer évidemment des problèmes au niveau physique et des problèmes au niveau psychologique. Il y a beaucoup plus de personnes en situation de handicap qui sont au prix avec ce type de problème-là dans leur emploi, beaucoup plus que les personnes donc, qui n'ont pas de situation de handicap.
Voilà. Mais là, on va faire un grand saut de plusieurs fuseaux horaires. Non seulement on revient de France, on traverse l'Atlantique, mais on passe... par-dessus une bonne partie du Canada et on atterrit en Saskatchewan.
On s'en va faire un petit tour en Saskatchewan, François.
Où il ne fait pas bon d'être âgé et francophone.
Où il ne fait pas bon d'être âgé et francophone, c'est bien dit. Donc, effectivement, il y a santé, il y a logement, sont peu accessibles aux personnes en situation d'être aînées, ça ne se dit pas, en situation donc de vieillissement,
oui.
Et francophones, donc ils ont peu de services en matière de logement et de santé en français. Donc pour les personnes qui ne parlent pas très bien anglais, voire pas du tout, c'est difficile là, de se faire servir dans sa langue première, et évidemment ça cause des problèmes au niveau de l'accessibilité et des droits fondamentaux.
La Fédération des aînés francophones du Canada, cette année, se réunissait pour son congrès annuel il y a quelques jours en Saskatchewan, et c'est cette situation qui a été dénoncée. La santé et le logement, comme vous dites, étaient au cœur des discussions la semaine dernière à Saskatoon. Une dizaine d'associations y ont participé. En Saskatchewan, il n'existe qu'une seule maison de retraite francophone. Elle est à Saint-Isidore de Bellevue,
oui.
Un magnifique village qui compte 120 habitants.
Oui, mais voilà, qui n'est pas central.
Voilà.
Donc, il faut être proche, il faut se déraciner de nos familles. Il faut encore qu'il y ait de la place, hein, parce que s'il y en a juste un, il doit être quand même rempli.
Oui, il doit être assez pris. Puis, on ne peut pas croire qu'il y a des. Il doit y avoir des aînés francophones à Regina, à Saskatoon,
oui,
dans d'autres villes plus importantes de la Saskatchewan. Et puis, bon, mais ils n'ont pas
je
de service.
Je confirme qu'il doit en avoir au moins trois, franchement.
Oui, ah, ben, bravo. Ben, il y en a certainement plus que ça. Oh là là, la ministre Kamal Khera pensait avoir fait un bon coup, mais là, ça rebondit un petit peu.
Oui, bien effectivement, on a eu quelques petits problèmes à ce niveau-là, François, parce que, effectivement...
C'est la prestation,
oui.
Pour les personnes en situation de handicap qui a été annoncée avec beaucoup de fanfare.
Oui, on en a parié beaucoup, François, dans les dernières semaines, mais on l'a dit, hein, les personnes qui défendent le droit des personnes en situation de handicap et les organismes sont pas très contents de ça, ne sont pas satisfaits, entre autres parce que les chiffres 4,8 milliards sur 5 ans, ça a l'air beaucoup, et c'est beaucoup, mais comparativement aux besoins, ce n'est pas assez.
Exact.
On parle donc des personnes qui, en situation de handicap à faible revenu, qui pourraient avoir une prestation maximale de 200 $ par mois.
Tout à fait. Et là, il y a comme une bataille d'impact de cette mesure-là, parce que le gouvernement parle de 600 000 Canadiens, Canadiennes qui vont en profiter, mais d'autres organismes refont les calculs, puis ça tombe à 25 000.
Oui, 25 000, donc 25 000 personnes en situation de pauvreté qui pourraient être sorties de la pauvreté, ou à tout moins qui pourraient être aidées par cette nouvelle prestation. Donc, c'est bien loin de ce que le gouvernement
oui.
du Canada avait proposé, avait décrété au moment où ils ont mis en place cette prestation.
Exact.
Et comme je le disais, 200 $ par mois, c'est trop peu. Évidemment, c'est mieux que rien, mais 200 $,
voilà,
on va pas loin.
Guillaume Parent, qui est très près du dossier, était venu ici à notre antenne il y a quelques semaines et avait dit que, il y a une question de verre à moitié plein, à moitié vide. C'est mieux ça que rien du tout. Puis il faut continuer à travailler sur cet acquis. Mais la ministre Khera défendait le programme en disant que c'était le plus important programme du dernier budget. Mais là, maintenant, son propre cabinet dit que c'est le plus important nouveau programme.
Oui, en fait, évidemment.
Là, ça commence à patiner un petit peu sur le côté. Là.
Quand elle a sorti ça, il y a eu des personnes qui ont bien examiné le budget, qui ont dit « c'est pas tout à fait vrai, ma chère amie. »
C'est un peu alternatif, là,
voilà.
Comme vu.
Et donc, après les critiques, le cabinet est ressorti pour revenir mettre les pendules à l'heure. On a joué un peu sur les mots en disant que, c'était le nouveau programme le plus satisfaisant.
Important, oui.
En importance, ouais. Mais reste qu'on voit un petit peu là, qu'au niveau du ministère, on essaie de sauver les meubles.
Et le NPD, qu'il faut se rappeler, le gouvernement actuel est un gouvernement minoritaire qui
compte sur le NPD,
qui compte sur
l'appui
du NPD, exact.
Le NPD avait donc donné son appui au gouvernement libéral, entre autres en échange donc des prestations dentaires pour les personnes à faible revenu et les personnes âgées, mais ils menacent maintenant de retirer leur appui s'il n'y a pas plus d'efforts qui sont faits en fonction pour aider donc les personnes en situation de handicap. Les démocrates retiraient leur appui, on pourrait tomber en élection précipitée.
Ça commencerait à aller mal. Dans ce sens-là, Laurel Collins, qui est députée du Nouveau Parti démocratique, vient de déposer un projet de loi d'initiative parlementaire qui permettrait une intégration des données déjà disponibles et ou dans les milieux provinciaux pour l'accès au crédit d'impôt pour personnes handicapées, comme quoi la prestation d'invalidité et d'autres programmes fédéraux et aussi des programmes provinciaux qui n'ont pas encore le crédit d'impôt pour personnes handicapées pourraient y avoir droit. Et oui, le fait d'être déjà inscrit ou inscrite à l'un de ces programmes permettrait d'entrée de jeu de façon automatique de recevoir le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Et là, oui, ça permettrait aux mesures de rejoindre beaucoup plus de gens parce qu'on le sait, le crédit d'impôt pour personnes handicapées, c'est un parcours difficile.
C'est un parcours du combattant, effectivement, ça rendrait beaucoup plus simple parce qu'en s'inscrivant à l'un, on serait automatiquement inscrit à l'autre et ce serait plus facile donc au niveau de toute la paperasse pour les gens qui n'y comprennent pas grand-chose comme moi. Et donc, qui pourrait se sauver un peu de maux de tête. Et effectivement, il y a des gens qui ont droit, qui ne savent pas qu'ils ont droit ou qui ne le prennent pas.
Ou qui ne se perçoivent pas comme ayant droit.
Oui, voilà.
Et en plus, évidemment, il faut l'intervention de quelqu'un du domaine médical pour avaliser tout ça. Là, parfois aussi, ça fait obstacle. Et en plus, quand on sait que le crédit d'impôt pour personnes handicapées donne droit au régime enregistré d'épargne invalidité,
qui est un très bon régime.
Qui doit être dans le portefeuille de toutes les personnes en situation de handicap, mais qui ne l'est pas loin de là. Cette situation est particulièrement pernicieuse, je dirais, au Québec. Voilà.
Oui, effectivement, au Québec, on se fait moins, on prend moins notre droit à ce crédit d'impôt. Donc, effectivement, là, ce projet de loi-là, s'il était adopté, François, pourrait rendre les choses beaucoup plus faciles pour les personnes en situation de handicap.
Voilà. Alors, on ne sait pas si d'ici à la fin de la session, dans quelques jours, si ça pourra passer à suivre. On est à Laval. Les entreprises lavalloises sont honorées.
Oui, donc à l'occasion de la Semaine québécoise pour les personnes en situation de handicap qui avait lieu la semaine dernière, du 1 au 7 juin, donc c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant?
Ah, il y a 10 jours.
Il y a 10 jours, bon, voilà. Ah, voilà. Il y a 10 jours. Il y a la table régionale pour l'intégration à la vie active et au travail de Laval, donc le TRIVA, a lancé l'initiative « Ici, nous valorisons les talents, pas limite ». En fait, cette initiative, vous l'avez compris par le titre, aide à l'emploi des personnes en situation de handicap. C'est un outil promotionnel qui offrira une visibilité aux entreprises.
Exact.
Et leur permettra de se démarquer de leurs concurrents, particulièrement dans les marchés où les consommateurs demandent de plus en plus à s'engager en faveur de l'inclusion.
Oui.
Donc, les entreprises qui auront des personnes en situation d'handicap dans leur...
dans leur personnel.
Dans leur personnel seront mis là-bas.
Tout à fait. Alors, c'est comme pour valoriser l'inclusion des personnes en situation d'handicap au sein des entreprises. Alors, ça fait comme un petit badge, là, qui fait que... Et c'est vrai que les consommateurs sont plus...
Oui.
Je dirais plus au fait et exige maintenant que les entreprises avec lesquelles ils ou elles font affaire aient un comportement social plus acceptable.
Oui, effectivement. Donc, c'est important, particulièrement pour les nouvelles générations d'adultes qui sont beaucoup plus sensibles à ça. Et donc, les entreprises de plus en plus demande à ce que les lois et les façons de faire soient plus éthiques et vont choisir leurs entreprises en fonction de ce qui est de leur comportement éthique ou non. Donc, pour répondre à ça, évidemment, les entreprises essaient de redorer leur image.
Tout à fait.
Et répondre à la demande en changeant leur comportement.
Et c'est bien que ce geste-là soit reconnu publiquement.
Oui.
Voilà, c'est positif. Mais après la pause, on va revenir sur des solutions solidaires dans un sens générique là, et pas nécessairement politique.
Started packing. anyone could see the road that they walk on.
Voilà, The Way, c'est peut-être par le groupe Fastball. C'est une histoire assez spéciale. Vous irez voir sur Wiki ou quelque chose comme ça. Il s'agit d'un couple d'octogénaires qui, malheureusement, commençaient à avoir des problèmes cognitifs et un jour sont partis pour aller à la foire agricole pas très loin de chez eux. Puis ils ont disparu, littéralement, pendant plusieurs semaines. On les a retrouvés 600 000 plus loin et malheureusement décédés. Leur auto au fond d'un ravin. C'est une histoire très triste. Et comme vous le disiez, Lisanne, avant de revenir en onde, ça, c'est arrivé dans les années 80. Aujourd'hui, ben
aujourd'hui, grâce à Internet, on les retrouverait facilement.
Pas mal plus, oui.
On lancerait donc une alerte et la population se mettrait solidairement à leur recherche.
Oui,
et
tout à fait.
On pourrait les retrouver avant qu'il arrive quelque chose de
malheureux
de
comme ça. Ben, en tout cas, alors c'est d'où vient l'histoire de cette chanson. Maintien, on va parler de ça, maintien des aînés à domicile. La Corderie comme partenaire incontournable.
Oui, c'est quand même une nouvelle un peu particulière, mais vous allez voir, ça donne de bonnes idées. Donc, on parle de l'Université de Sherbrooke en partenariat avec diverses accorderies du Québec, dont celle de Longueuil, qui ont mené le projet Résilience, qui vise à maintenir des personnes âgées à leur domicile grâce aux accorderies. Les accorderies, François, là, c'est des
oui.
endroits où il y a des échanges de services.
Tout à fait.
Donc, je peux donner de mes services et grâce au temps que je peux récupérer.
Une heure égale une heure, c'est ça leur mot d'ordre. Alors, si je peux peut-être aller tondre votre gazon... peut-être vous êtes capable de recommoder ma chemise.
Oui, ou à tout le moins, si on ne peut pas faire un service direct l'un à un, moi, je peux donner à la corderie pour des gens qui ont des problèmes en français. Par exemple, vous donnez à la corderie pour tondre des gazons et les deux, on fait une banque de temps et on va pouvoir demander donc à des collègues
avoir
de la corderie...
Avoir des services.
Pour avoir des services. Donc, effectivement, et là, grâce à la corderie, on met ça un peu en place, c'est-à-dire que les personnes aînées vont pouvoir bénéficier justement de services qui vont les aider au maintien à domicile, parce qu'on sait que de s'occuper d'une maison ou d'un appartement lorsqu'on est âgé et en perte d'autonomie ou en perte
de mobilité... Ça devient lourd.
Ça peut devenir très lourd et les gens sont parfois assez isolés, n'ont pas de famille autour ou n'ont pas beaucoup d'amis autour qui sont en mesure de les aider physiquement. Et donc, effectivement, le raccorderie peut aider en donnant des services. Et ça permet à des personnes aînées de rester plus longtemps à la maison.
À la maison, oui.
Et évidemment, ça permet aussi faire un sentiment de solidarité avec la communauté autour et de faire des liens entre des personnes qui vont pouvoir...
Qui autrement ne se parleraient pas.
Qui autrement ne se parleraient pas, qui vont pouvoir s'aider, qui vont pouvoir devenir amis et éventuellement donc de briser l'isolement de ces personnes-là, parce qu'on le sait, là, c'est un grave problème chez les aînés.
Tout à fait. Et des fois, ce n'est pas grand-chose. Hein. Ça peut être accrocher une tringle à rideau ou faire une petite réparation à la maison. La Corderie de Longueuil, qui est au centre de cette recherche de l'Université de Sherbrooke, compte environ 380 membres et on retrouve une douzaine d'accorderies au Québec et une quarantaine en Europe. Alors, si vous ne connaissez pas le principe de l'accorderie, allez voir. Ça peut être quelque chose qui peut vous intéresser.
C'est franchement intéressant, non seulement là, pour les personnes aînées, mais
pour
évidemment
tout
là, pour tout le monde. Hein, on a tous des forces et des choses dans lesquelles on est moins bon. Donc,
voilà.
Si vous avez un peu de temps, vous pouvez offrir dans votre temps. Et si vous avez des besoins à la maison ou ailleurs,
quelqu'un peut vous aider.
Viendra vous aider. Donc, et comme vous le dites, en soi, mais ça permet de faire des liens, de faire connaître dans la communauté et d'avoir des gens pour un petit partage de café ou pour aller marcher. Ça fait toujours du bien.
Voilà. Ah, maintenant, en Abitibi, là, on fait du sport.
Oui, donc on parle de la tournée À vos marques. qui arrête à Val d'Or avec 180 athlètes vivant avec un handicap. Donc, on parle d'une initiative là, qui vient de Altergo. Dont
oui,
on a
c'est
parlé.
Ça. C'est un peu comme on en avait parlé il y a quoi, un mois ou à peu près, oui. Altergo qui allait faire des petits.
Oui, effectivement. Donc, défi sportif Altergo qui se déroule à Montréal. Donc, depuis plus de 40 ans, on en avait parlé à la fin du printemps. À la fin du printemps. On est encore au printemps, mais je veux dire au mois de mars, donc.
Oui, oui.
Parce que ça avait lieu à Montréal, mais effectivement, on voulait déplacer un peu, ouvrir à d'autres opportunités en région. Et donc, c'est un peu ça qu'on vient de faire. Donc, on parle de personnes qui ont pu à Val-d'Or pratiquer leur sport. Et en même temps, ça permet évidemment de faire...
Faire connaître
ouais. Le sport adapté, de faire de la sensibilisation au sport adapté et aux besoins des athlètes. Et ça permet évidemment à des personnes sans handicap de considérer le fait de faire du sport avec des équipes sportives sont ouvertes à avoir de nouveaux membres.
Exactement. C'était l'Association régionale des loisirs pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue qui a travaillé en partenariat. Et on souhaite de faire de tout cela un événement annuel. Ce serait fort bien. Dans la région de Windsor aussi, Windsor, là, on est un petit peu passé Granby, là. On s'en va vers Sherbrooke, hein, le long de la 10. L'organisme En Logement, HAN Logement, dont on a eu le plaisir ici de parler déjà au printemps, bien, vient d'inaugurer un nouvel édifice. En fait, il s'agit de deux immeubles, chacun de 8 logements pour un total de 16 sur la rue Simoneau. Ça va être des logements qui vont être adaptés pour des personnes handicapées dans la région de Windsor. On parle de 3,7 millions d'aides pour réaliser ce projet de 3,7 millions a profité de l'aide du Fonds immobilier de solidarité FTQ du gouvernement du Canada et qui a mis jusqu'à hauteur de 400 000. Bravo! Mmh. Parlons de résidence pour aînés dans la région de Lillet. Là, ça tourne moins bien.
Oui, effectivement. Donc, c'est un peu ce qu'on a vu dans les dernières semaines. Des petites résidences pour aînés de la MRC de Lillet qui s'unissent pour envoyer un message clair au Québec. Le gouvernement qui a annoncé en janvier un nouveau programme concernant les soins offerts aux personnes âgées. Ces nouvelles allocations ne sont toutefois pas suffisantes pour tous. On a parié, je pense, c'est la semaine dernière, François.
C'est
effectivement,
vrai.
On a sorti des gros chiffres, un peu plus de 240 millions, si ma mémoire est bonne. Mais les résidences pour aînés, donc, qui s'unissent pour dire que ce ne sera pas suffisant. On en parlait, François, hein, malgré le fait que c'est des chiffres qui paraissent bien. Les demandes sont énormes.
Ouais,
on a un gros retard à rattraper. Encore plus depuis la COVID-19 et on essaie de garder les personnes aînées à domicile parce que ça coûte moins cher, entre autres, que les envoyer en CHSLD. C'est évidemment beaucoup plus pertinent pour eux de rester à la maison.
Ben,
mais
oui, d'être chez soi ou d'avoir un chez soi, si c'est pas celui qui est peut-être qui n'est plus adapté à leur situation, ça peut être un autre chez soi qui lui est adapté.
Donc, une maison d'hébergement, mais qui ressemble beaucoup moins, qui est beaucoup moins... calqué là, sur un domaine hospitalisé. Hospitalier, dis-je.
Ben, exact.
Parce que donc, c'est... on voudrait une maison là, qui ressemble plus à une maison normale. Oui, voilà. Donc, moins médicalisée. Par contre, effectivement, là, de 240 millions qu'on a annoncés ne seront pas assez.
Ça crée des problèmes de surfacturation, puis là, ça déboule. Ah, il y a plein d'autres choses qui se passent un peu partout au Québec. Nous n'aurons pas le temps. Il va falloir recommencer le 9 septembre.
Oui, bon, le 9 septembre, on aura des choses probablement qui vont être plus neuves pour vous.
Ben oui, ben Élisane Pellerin, merci encore pour cette revue de presse dont on ne peut plus se passer. Voilà. On a le plaisir de travailler avec Claire Guérin à la recherche, tous ces sujets formidables qu'elle nous amène semaine après semaine. Mathieu Tessier, qui toute l'année m'a empêché de faire des gaffes innombrables et pendables. Merci. Je vous dis bon été. On se reparle à l'automne.